Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2 heures d'infos, de débat mais aussi d'opinion avec les auditeurs, l'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Et bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, l'ombre du Covid sur le premier tour de la présidentielle, certains réclament le retour du masque, au moins dans l'isoloir. Dans ce journal également, la reprise des discussions entre Russes et Ukrainiens. Et puis on vous emmènera à Londres, où la reine assiste bien à l'hommage rendu à son époux, le prince Philippe.
Un jour, une proposition, chaque jour jusqu'au premier tour. RTL Midi passe au crible des propositions des candidats. Aujourd'hui, les quartiers sensibles. Et à 12h50, on se demandera si Roman Abramovitch a vraiment été empoisonné, comme l'affirme le Wall Street Journal. Si oui, par qui et pourquoi?
Notre question du jour sur RTL.fr. Faut-il, selon vous, mettre le masque pour aller voter? Vous dites oui à 61%, non à 33%. La météo, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Bon, comme prévu, les nuages sont de retour.
Et oui, avec en plus un risque d'averse plus prononcé cet après-midi sur un quart nord-ouest. Un coup de tonnerre possible même vers la Normandie et puis des averses moins nombreuses entre l'Aquitaine et les Ardennes. Et à l'est, là, le temps va rester sec mais bien voilé. Les températures, elles commencent à baisser mais elles restent douces pour la saison. Elles seront globalement comprises entre 15 et 20 degrés.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc cette mise en garde de plusieurs médecins à 12 jours du premier tour de la présidentielle et alors que le nombre de nouveaux cas de Covid continue de progresser, Gilles Pialou et d'autres réclament le retour du masque au moins dans les bureaux de vote.
L'isoloir n'est pas le pire lieu qu'on puisse imaginer de contamination, bien sûr. Mais il y a toute cette partie attente, il y a toute la partie où vous allez donner votre carte d'identité, etc. On n'aurait jamais dû avoir ce programme de relâchement total des mesures contraintes sans expliquer qu'il allait y avoir une circulation virale. Vous avez vu les marqueurs d'aujourd'hui. J'ai entendu que chaque Français savait comment se protéger. Non, on voit bien en circulant dans l'espace public que les gens ne savent pas encore. Donc il faut un message de prévention et pas laisser aux gens le choix à la fois d'être malade et surtout de participer aux chaînes de contamination.
Gilles Pialou, infectiologue à l'hôpital tenant à Paris au micro RTL d'Odile Pouget. C'est dans ce contexte qu'avait lieu ce matin à l'Élysée un nouveau conseil de défense sanitaire. Bonjour Vincent de Rossi.
Bonjour.
Pour l'instant, pas question de réimposer le masque.
Non, aucune obligation, ce qui ne veut pas dire pas d'incitation, car l'exécutif regarde la courbe des contaminations avec inquiétude. Donc, le gouvernement va encourager notamment les personnes âgées ou fragiles à mettre un masque le jour du vote. Et pour les personnes qui tiennent ces bureaux de vote, des stocks de masques seront à disposition. Après, ça sera à eux de choisir s'ils le portent ou non. Autre règle, chaque bureau de vote devra s'organiser pour, je cite, « éviter la cohue ». Ça ne sera pas plus précis, ça sera du cas par cas selon l'affluence et la région. Enfin, deux sujets étaient sur la table ce matin à l'Élysée. D'abord, quelles règles pour les personnes positives le jour du vote? Rien à filtrer, mais selon un conseiller, le bon sens, c'est qu'elles puissent aller voter avec un masque. Enfin, le gouvernement réfléchit très sérieusement à la quatrième dose pour les plus de 65 ans atteints de comorbidité. Morbidité, ça concerne quand même plus de 3 millions de personnes.
Vincent de Rosier du service politique de RTL.
Éric Zemmour, lui, est aujourd'hui à Sevran.
Un déplacement décidé à la dernière minute après une troisième nuit d'incidents sur place et la mort d'un homme tué par un tir policier. C'était samedi. Le candidat se défend de toute récupération.
Moi, je ne considère pas que ce soit un fait divers. C'est au contraire l'histoire, c'est-à-dire un remplacement de population qui donne ses effets. La destruction, la délinquance, les vols, les crimes, comme... Il fallait terroriser les terroristes, il faut éradiquer la racaille, les frapper partout et à tous les niveaux. Au portefeuille, il faut saisir leurs biens, supprimer leurs allocations sociales, les expulser des HLM. Nous mènerons une action globale et totale. Il n'y aura plus de répit pour eux.
Éric Zemmour au micro RTL de Thomas Després.
Et dans moins de 10 minutes, on verra ce que chacun des candidats propose dans les quartiers sensibles précisément. Un jour, une proposition, c'est tous les jours dans RTL Midi jusqu'au premier tour.
Emmanuel Macron lui réenfile aujourd'hui ses habits de président. Il doit s'entretenir cet après-midi avec Vladimir Poutine et ce, alors que les négociations entre Russes et Ukrainiens ont repris ce matin à Istanbul. Timur Öztürk, bonjour. Vous êtes sur place pour RTL. Pour l'instant, rien ne filtre, mais une présence remarquée, c'est celle de l'oligarque Roman Abramovitch.
On le savait à Istanbul, mais on ignorait sa présence à la table des négociations, alors qu'on a appris hier qu'il aurait été empoisonné à Kiev, en même temps que deux négociateurs ukrainiens au début du mois. Ils sont aujourd'hui hors de danger, mais cela pourrait être interprété comme un avertissement pour cet ancien proche de Vladimir Poutine qui veut aujourd'hui la paix avec l'Ukraine. Roman Abramovitch a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan en amont des négociations ce matin, mais ses soupçons d'empoisonnement pèsent sur ses pourparlers. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a même conseillé à sa délégation de ne pas boire et de ne pas manger pendant les discussions ici à Istanbul. Les négociations doivent se poursuivre jusqu'en milieu d'après-midi. La diplomatie turque espère un cessez-le-feu en Ukraine, un couloir humanitaire pour Mariupol. Mais on se rappelle que le 10 mars dernier, les pourparlers menés dans le sud de la Turquie n'avaient pas permis d'avancées concrètes.
Timur Rozturk à Istanbul pour RTL sur le terrain de nouvelles frappes ce matin à Mykolaïv, non loin d'Odessa, au sud de l'Ukraine, mais pas d'avancée majeure des troupes russes. La ville d'Irpin, dans la banlieue de Kiev, a même été reprise, Valentin Boisset.
Oui, c'est un symbole, une ville en ruine, mais désormais sous contrôle ukrainien après des semaines de combats, ce qui signifie que le front russe recule vers le nord. Un peu partout, ces fronts se stabilisent à l'est, mais aussi au sud. La menace, en revanche, vient toujours du ciel. L'alerte vient de retentir à Lviv, c'est pourquoi ma voix résonne peut-être un peu dans l'abri. Depuis hier soir, la situation est compliquée ici. Trois missiles sont passés au-dessus de nous ces dernières heures, interceptés par l'armée ukrainienne. Résultat, des incendies dans des champs de blé dans le sud, comme vous le disiez, Mykolaïv a également été durement atteint par un missile qui a détruit le bâtiment de l'administration régionale. Il faut s'imaginer ce midi une barre d'immeubles avec un énorme trou béant en plein milieu. La Russie annonçait ne pas vouloir s'en prendre à l'ouest et au sud de l'Ukraine. Et bien dans les faits, nous le constatons ici, ce n'est pas le cas. C'est même l'inverse, les bombardements s'intensifient dans ces zones.
Valentin Boisset, l'un des envoyés spéciaux de RTL en Ukraine.
Une guerre que suivent de près les agriculteurs ici en France.
La hausse des prix de l'énergie et des céréales inquiète tout particulièrement les producteurs de volailles qui doivent en plus faire face à la grippe aviaire. Guillemette Franquet, vous vous êtes rendu dans une exploitation à Noyelles-Musillac, c'est à 30 km de Vannes.
Oui, entouré de prairies, à côté de l'étable, il y a ce grand hangar en tôle où logent 12 000 poulets. Mais arrivé aux abords du bâtiment, Bertrand me stoppe net.
On va devoir s'arrêter par là, par contre.
On peut pas rentrer là dans le poulailler ?
Non, là on arrive dans le périmètre sanitaire du poulailler.
Une nouvelle vague de grippe aviaire vient d'apparaître dans la région.
Il y a eu un cas sur du canard il y a une dizaine de jours, à 9-10 km d'ici. Et là, dans les 10 km, pour 4 semaines, il y a interdiction de re-remplir nos poulaillers. J'ai des voisins qui devaient recevoir leur caneton la semaine dernière. Leur activité est à l'arrêt.
Mais c'est loin d'être la seule inquiétude de Bertrand. Avec son père Dominique, qui est aussi son associé, ils font les comptes dans la salle de repos de l'exploitation.
Ça fait 30 centimes.
Avec l'augmentation des prix du gaz, de l'électricité et de l'alimentation pour animaux, notamment dû à la guerre en Ukraine, les comptes du poulailler ne sont pas bons.
La marge l'année dernière est à peu près 70 centimes du poulet. Et aujourd'hui, elle est plus que de 30 à 35 centimes. Ça va nous faire une perte de 20 000 euros. C'est énorme, quoi.
Pour résoudre le problème, pas le choix. Il faut vendre ses produits plus chers. Le consommateur devra mettre la main à la poche.
Près de Vannes, le reportage pour RTL de Guillemette Franquet à Besançon. Le début ce matin du procès de Nicolas Zepeda, ce Chilien accusé d'avoir assassiné son ex-petite amie japonaise Narumi Kurosaki. Un procès délicat, compliqué, sur le fond comme sur la forme, Samuel Goldschmidt.
Et oui, sur le fond, le nœud du problème, c'est que la cour est face à un crime sans cadavre, mais avec tellement de détails qui accusent Nicolas Zepeda que les débats vont sans doute être très compliqués. Et le rappel des faits durant cette première matinée est plutôt troublant. Nicolas Zepeda est la dernière personne qui a vu Narumi vivante. Il dîne avec elle au restaurant le soir de la disparition. Quelques jours plus tard, il rend une voiture de location couverte de boue avec de la terre dans le coffre et côté conducteur. La géolocalisation de sa voiture établit d'ailleurs qu'il s'éloigne des grands axes routiers dans le secteur de l'immense forêt de chaud entre Dole et Besançon, cela fait beaucoup, mais Narumi n'a jamais été retrouvée. Et puis tout sera compliqué sur la forme. Il y a 6 interprètes qui se relaient dans la salle, il faut tout traduire en direct, en espagnol d'un côté, en japonais de l'autre. Nicolas Zepeda a parfois du mal à savoir où donner de la tête entre le président qui lui parle en français à sa gauche et sa traductrice qui interprète à sa droite. Il y aura même des auditions de témoins en visioconférence avec le Japon, avec 7 heures de décalage horaire. Si tout se passe dans les temps, la fin du procès est prévue dans 2 semaines.
Samuel Goldschmidt en direct de la cour d'assises du Doubs pour RTL.
Au Royaume-Uni, ce sera sans doute l'image du jour.
Cette cérémonie d'hommage au prince Philippe, cérémonie en présence de la reine Elisabeth, elle est finalement bien là, Marie Billon.
Et oui, elle était là et puis elle n'est pas entrée en catimini. Alors elle n'a pas pris la porte principale, elle est rentrée par une petite porte de côté. C'était pour qu'on ne la voit pas descendre de sa voiture puisqu'on sait qu'elle a des problèmes de mobilité et aussi pour que le chemin soit plus court entre l'entrée et son siège. Écoutez, elle est arrivée au bras de son fils le plus controversé, le prince Andrew, mais elle a marché quand même quelques bons mètres avant de lui lâcher le bras pour faire les derniers pas pour s'asseoir à son siège. Et ces derniers pas, elle les a fait vraiment s'entraîner avec plutôt pas mal d'énergie. Donc la reine, même si elle a ses problèmes de mobilité, voulait absolument être là pour cette messe de commémoration de son épouse. Et dans cette abbaye de Westminster qu'elle avait épousé le prince Philippe il y a plus de 70 ans, c'était important pour elle d'être là. Et c'était important aussi que ses sujets la voient. Et en la voyant marcher toute seule avec simplement une canne, mais en tout cas sans fauteuil roulant du tout, elle a certainement rassuré ses sujets qui s'inquiétaient pour sa santé.
Marie Billon, direct de Londres pour RTL.
Du football ?
Ce soir, oui, avec France-Afrique du Sud, dernier match amical avant la Coupe du Monde au Qatar. Coup d'envoi à 21h15 à Lille. Ce sera bien sûr à vivre sur RTL. Dès 21h, RTL Foot spécial équipe de France. Et puis si vous n'êtes pas très foot, ou si vous êtes aussi foot mais que vous voulez aussi voir autre chose, pourquoi pas Johnny, vu par Johnny. Netflix lance aujourd'hui une série documentaire en 5 épisodes sur la vie du taulier. Aucune révélation, mais plein d'anecdotes. Bonjour Laurent Marsic. Johnny Hallyday, n'hésitez pas par exemple à raconter qu'il aimait bien mentir.
Oui, c'est le film de sa vie chronologique. C'est un portrait intime et vrai. Il y a les excès, l'alcool, la drogue, surtout dans les années 70. Et dès le départ, effectivement, il s'invente une vie. Souvenez-vous de sa première télé. Lynn Renault le présente comme ceci au public.
Il s'appelle Johnny Hallyday parce que son père s'appelle Hallyday. Le père est américain et la maman française.
Tout est faux et Johnny s'en amuse.
Mais c'est un vice. Je ne peux pas m'en empêcher.
T'adores ça, hein?
Ah, j'adore ça. Tu peux savoir, c'est ce que je préfère.
Et avant que cela ne lui joue des tours, il y a un homme qui va le prendre sous son aile, c'est Charles Aznavour. Johnny a 17 ans et il va lui écrire « Retiens la nuit ».
Comme Aznavour m'avait fait ce texte, il surveillait ma façon de chanter la chanson. Il me disait « Ce soir, tu ne l'as pas bien chanté. »
Trois chemins pour l'anecdote, le jour où Charles Aznavour lui offre cette chanson et lui offre en même temps un cheval.
Voilà, 5 épisodes, tout sort en même temps. Ou si tout sort en même
temps. Tout est là depuis 9h01 ce matin.
Merci beaucoup, Laurent.
Dans une seconde, comme chaque jour jusqu'au premier tour, un jour une proposition. RTL Midi passe au crible les propositions des candidats aujourd'hui, les quartiers sensibles.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro. Présidentielle 2022. J-12.
Depuis hier et jusqu'au premier tour, un jour, une proposition. C'est votre rendez-vous présidentiel de la mi-journée. RTL Midi passe au crible les propositions des candidats. Et on s'arrête donc aujourd'hui sur les banlieues, les quartiers sensibles. Bonjour Anne Le Hénaff.
Bonjour.
Vous avez épluché les programmes de chacun. On a choisi ce sujet parce qu'Éric Zemmour était ce matin à Sevran. On l'a entendu il y a quelques minutes. Il dit vouloir éradiquer la racaille, ce sont ces mots. Concrètement, ça veut dire quoi ?
Alors, dans son programme, il y a plusieurs mesures assez fortes. Par exemple, la présomption de légitime défense aux policiers et aux gendarmes qui utiliseraient leurs armes. Ça colle parfaitement avec le fait divers de Sevran. La police municipale devrait être armée. Et puis, il souhaite instaurer des peines planchers pour tous les crimes et tous les délits. C'est une mesure qui a existé en France, mais qui a été supprimée depuis. Plus d'aménagement de peine, majorité pénale à 16 ans, expulsion de tous les criminels qui ont la double nationalité. Il souhaite également se servir des aides sociales comme d'un levier en les supprimant pour les délinquants et pour leurs familles et en expulsant des logements sociaux les dealers et leurs familles également.
Valérie Pécresse, elle propose de durcir les peines dans les quartiers sensibles.
Oui, elle souhaite faire d'un délit commis dans un quartier sensible une circonstance aggravante. En fait, on ne serait pas puni de la même façon selon l'endroit où on commet un crime
mais
ou un délit.
Mais c'est possible, ça,
alors,
sur un plan constitutionnel.
Beaucoup de spécialistes disent que ça ne passera pas le cap du Conseil constitutionnel parce qu'on ne peut pas être puni différemment selon l'endroit où on se trouve. Mais ça fait partie de ces déclarations. Doubler les peines dans les quartiers de reconquête républicaine sont des quartiers qui existent déjà. Ça a été créé par Macron. Son programme, plus généralement, s'appelle « Remettre de l'ordre dans la rue », avec là aussi une impunité zéro, dit-elle, pour les voyous et les délinquants, avec plus de moyens pour la police et pour les gendarmes. Là aussi, une police municipale qui serait armée dans les villes de plus de 5000 habitants. Des peines minimales d'un an de prison ferme pour les auteurs d'agressions contre ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Et elle souhaite également des enquêtes plus efficaces avec des sortes de brigades coup de poing dans les quartiers qui mélangeraient police, justice et fixe pour reprendre les territoires abandonnés. Ce sont des thèmes et des propositions qu'on retrouve aussi dans le programme de Marine Le Pen, qui elle aussi propose des peines planchers, qui souhaite aussi une présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes, et qui plus largement veut augmenter le budget de la sécurité et de la justice de 1,5 milliard d'euros par an pour créer plus de postes de policiers et de gendarmes et de personnel administratif aussi. Et elle aussi, elle veut une police municipale armée dans les communes de plus de 10 000 habitants. Pour ces trois candidats-là de droite, clairement, quartier, ça rime avec sécurité. Dans les grands chapitrages de leur programme, il n'y a pas de rubrique quartier ou banlieue avec des mesures d'ordre plus social. On peut dire aussi que du côté d'Emmanuel Macron, oui, la banlieue, elle a été un peu une grande absente de sa conférence de presse il y a 15 jours, qui s'est pourtant tenue à Aubervilliers, en banlieue. Il n'en a quasiment pas dit un mot, au point que des élus locaux regrettent que les banlieues, qui représentent des millions d'habitants, soient un peu les grandes oubliées de la campagne du président sortant.
Et à gauche, il y a des propositions, Anne ?
Alors, il n'y a pas beaucoup de surprises, évidemment. À gauche, le discours est beaucoup moins sécuritaire. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, dénonce l'affolement sécuritaire qui serait, selon lui, inefficace et liberticide. Il fait la liste de toutes les lois qui se sont enchaînées depuis des années pour montrer qu'elles ne servent pas à grand-chose. Concrètement, il propose la suppression des BAC, les brigades anti-criminalité, pour les fusionner avec les effectifs plus classiques de la police. Et puis, il y a aussi beaucoup plus de mesures d'ordre social, comme baisser le nombre d'élèves par classe, comme accélérer la carrière des professeurs dans ces quartiers difficiles, construire plus de logements sociaux. Ce sont des thèmes qu'on retrouve aussi dans le programme d'Anne Hidalgo, qui veut mettre fin au collège ghetto en réinstaurant de façon plus rigide la carte scolaire. Et puis, elle veut punir mieux sur le plan sécuritaire. Du côté du Parti communiste, il n'y a pas grand-chose sur la sécurité en tant que telle des quartiers, mais des mesures pour désenclaver les quartiers oubliés, créer des postes de fonctionnaires et rendre ces quartiers plus accessibles aux services publics. Il faut savoir aussi que ces quartiers qu'on appelle banlieues ou territoires restent des terres qui sont très souvent marquées par l'abstention. Ceci explique peut-être cela.
Merci beaucoup Anne. Et donc tous les jours, comme ça, on choisit une proposition qui est dans l'actualité. On regarde ce que chacun des candidats propose.
Dans une seconde, on se demandera si Roman Abramovitch, qui est l'oligarque et notamment connu parce qu'il a été président du club de Chelsea, a vraiment été empoisonné, comme l'affirme le Wall Street Journal. A tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Après cette réunion, plusieurs participants ont commencé à avoir les yeux qui coulent, la peau du visage et les mains qui pèlent, et à se sentir mal. Tous se sont remis. Certains de ceux qui étaient visés pensent que derrière cette attaque, il y a des Russes radicaux qui veulent que les négociations de paix échouent.
C'est le très sérieux Wall Street Journal qui a révélé l'information. L'oligarque russe Roman Abramovitch ainsi que plusieurs négociateurs ukrainiens auraient été empoisonnés lors d'une réunion il y a 3 semaines à Kiev. Alors s'agit-il d'une tentative d'intimidation, d'une mise en garde ? L'affaire en tout cas interpelle et en rappelle bien sûr d'autres. Bonjour Rémi Coffert.
Bonjour.
Vous êtes historien spécialiste des questions de sécurité et de renseignement. Je rappelle entre autres votre ouvrage « L'histoire mondiale des services secrets » aux éditions Perrin. D'abord, est-ce que ça vous semble possible, crédible, cette tentative d'empoisonnement ?
Tout est possible. Venant du côté russe, tout est possible, bien sûr.
C'est une pratique qu'on a déjà vue et encore récemment, ce genre d'accusation.
Même de manière très ancienne, vous savez, dans l'histoire russe, par exemple, le prince Soupov en 1916 avait essayé d'assassiner Rasputin en empoisonnant sa nourriture. Ça n'a pas marché. Ils lui ont tiré dessus, ils l'ont jeté dans un fleuve. Mais les soviétiques ont repris très vite cette pratique. Ils ont créé dès sous Lénine ce qu'on a appelé le laboratoire des poisons, c'est-à-dire des services secrets qui est spécialisé dans les techniques d'empoisonnement.
Et dans la stratégie des maîtres du Kremlin, c'est une façon de faire peur et d'envoyer un message au fond à ceux qui trahissent. On vous retrouvera partout, sur tous les endroits de la planète.
Eh bien oui, les soviétiques, aujourd'hui les Russes, n'ont jamais hésité à faire comprendre quand ils frappaient. Je vous rappelle le Smertspionam, c'était... Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était le contre-espionnage militaire de l'armée soviétique, de l'armée rouge. Ça veut dire mauvais espion, c'est de ça dont s'est inspiré Ian Fleming. Eh bien oui, bien entendu, on, d'une certaine manière, on le fait savoir, on le téléphone, on ne le revendique pas, mais on le téléphone. Alors il faut être attentif aux signes et aux signaux qui vont venir ou ne pas venir ces jours-ci. Mais ça peut faire partie d'une technique de brouillage. J'entendais qu'on parlait d'éléments radicaux. Ça, je ne crois absolument pas qu'il y ait des gens qui cherchent à déborder Vladimir Poutine. Ce genre de choses se décide au sommet, au Kremlin.
Rémi Kofer, quand vous dites qu'il va falloir surveiller ce qui se passe dans les prochains jours, c'est quoi, par exemple, très concrètement?
S'il y a des signaux qui arrivent. S'il y a des signaux directs ou indirects qui arrivent, faisant comprendre, oui, c'est bien nous.
Et ça viendrait, si c'est confirmé, mais directement du Kremlin, dites-vous?
Ah ben, si l'opération c'est réellement une tentative d'empoisonnement, ça ne peut être donné qu'au sommet, c'est-à-dire au Kremlin.
Mais ces signaux, évidemment, c'est difficile à interpréter. Je ne sais pas comment vous allez en interpréter. Quand Amandine disait concrètement, c'est quoi un signal envoyé?
Ça peut être sous des formes très diverses. Ça peut être une rumeur avec un élément confirmant. Ça peut être des choses de ce genre, si vous voulez.
Bon, en tout cas, on s'interroge sur la manière dont on empoisonne quelqu'un. Est-ce qu'on boit? Est-ce qu'on mange? Par exemple, le polonium 210, c'est absolument terrifiant, qui serait fabriqué que dans deux centrales nucléaires. Il avait été déposé, je crois, sur une poignée de portes. C'était pour Navalny, peut-être, ou Skripal, je ne sais plus.
Non. Pour Skripal, c'était du Novichok, qui est un produit à usage militaire, un produit chargé dont l'efficacité est de complètement démolir tous vos centres nerveux. Alors, ils avaient mis du Novichok. Non, le polonium 210, c'était pour Alexandre Livinienko en novembre 2006 à Londres. Et ça, c'est un produit effectivement nucléaire. On l'avait
Ça, c'est terrible parce qu'on meurt dans d'atroces souffrances. Un message qui est envoyé.
Bien sûr, d'autant que les deux anciens du KGB, Litvinenko était un ancien du KGB aussi, mais il menait une croisade contre la corruption. Ces deux anciens camarades du KGB l'ont invité à prendre un thé dans un hôtel londonien, et un de ces deux, bon, c'est là qu'on a chassé évidemment le polonium dans son thé, un des deux agresseurs, si je puis dire, Et toujours député à la Douma. C'est-à-dire qu'il a été récompensé. C'est une manière, ça, c'est un signe. Se dire, voilà, c'est bien nous, on assume. On a tué Livinenko parce que il nous échappait à notre contrôle.
Ce matin, alors que les négociations ont repris, on le disait, à Istanbul, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a lancé un appel à tous ceux qui participent au pourparlers aujourd'hui. Il leur a dit, ne mangez pas, ne buvez pas, ne touchez pas quoi que ce soit pendant ces discussions. Ça paraît assez fou, on a un peu l'impression d'être dans un film quand on entend ce genre de choses, mais c'est une réalité.
Si j'ose dire, ça sent mauvais. Ça sent mauvais s'il y a vraiment, ce qui est à confirmer, tentative d'empoisonnement.
Mais quel serait l'intérêt pour la Russie d'empoisonner par exemple les négociateurs ukrainiens?
C'est difficile à dire parce que ça dépend de la stratégie décidée en haut, au sommet, au Kremlin. Et la stratégie décidée au Kremlin, on ne la connaît pas. D'ailleurs, on arrive très mal à la déchiffrer pour ce qui concerne l'agression contre l'Ukraine proprement dite.
Alors, il faut rassurer quand même ceux qui nous écoutent ou ceux même qui auraient des mauvaises pensées de vouloir éliminer quelques ennemis qu'ils ont dans leur vie intime ou personnelle. Le polonium 210, ça ne se trouve pas dans une pharmacie.
Heureusement, non.
Mais il n'y a que la Russie qui a recours à ce genre de pratiques?
Depuis l'origine du système soviétique, et jusqu'à maintenant, jusqu'à l'actuelle Russie, ça a été effectivement systématisé. C'est-à-dire que le fameux laboratoire des prisons, des poisons, qui a eu divers noms différents, mais il marche toujours. C'est-à-dire que au sein des services secrets, il y a un service chargé d'empoisonner. Après, les services secrets occidentaux aussi ont cette possibilité, mais ils l'utilisent peu. Ça a été utilisé quand même dans le passé.
C'était une tradition russe, effectivement. C'est Georgi Markov en 78, Livinenko en 2006, vous l'avez dit.
Alors, Markov était bulgare, mais c'était effectivement Yuri Andropov, qui était le patron du KGB de l'époque, qui, pour rendre service au dictateur bulgare de l'époque, avait fourni le produit pour le fameux parapluie empoisonné. D'ailleurs, il y a eu une tentative contre Kostov, qui était un autre opposant bulgare, à Paris, au métro Étoile Charles de Gaulle.
Mais quand vous avez parlé des services secrets occidentaux, par exemple la France, alors on ne le saura jamais, on ne l'a peut-être jamais su, mais est-ce que la France, par exemple, a utilisé ce type de méthode?
Dans le passé, oui. Par exemple, au moment des guerres coloniales, il y avait la fléchette empoisonnée pour tuer notamment les trafiquants d'armes qui vendaient des armes au FLN. Et puis, il y a eu un opposant camerounais qui a été empoisonné. C'est-à-dire qu'un faux journaliste a pris rendez-vous avec lui, lui a versé un poison et il est mort.
Écoutez, c'est absolument, c'est tout à fait étonnant de vous écouter.
C'était
parce
dans
que...
les années 60, c'était dans les oui. années 60, au tout début des années 60.
Rémi Kofer, depuis le début de cette crise et de cette guerre en Ukraine, on dit souvent beaucoup de choses autour de Vladimir Poutine, notamment qu'il fait très attention à tout. Est-ce que pour lui, c'est aussi une crainte que d'être empoisonné ?
Eh ben, vous avez un rapport dialectique, comme auraient dit les marxistes-léninistes, entre l'empoisonneur et la crainte d'être empoisonné. C'est-à-dire que, par exemple, pendant les procès, les fameux procès de Moscou de la fin des années 30 faits aux opposants à Staline ou à tous ceux qui gênaient Staline, eh ben, on a révélé que les chefs de l'ancêtre du KGB, c'est-à-dire Yagoda, par exemple, utilisaient les techniques d'empoisonnement pour pouvoir le condamner à mort. C'est-à-dire que par moment, la vérité est filtrée. Parce que celui qui empoisonne, qui fait empoisonner, a peur d'être empoisonné lui-même, car il pense que les autres agissent toujours de la même manière que lui. C'est un effet miroir.
Écoutez, vous écoutez, et passionnant, et je ne doute pas que vous puissiez faire une émission un jour avec Jean-Alphonse Richard à l'heure du crime pour expliquer ces affaires d'empoisonnement durant une heure complète. L'histoire mondiale des services secrets, c'est aux éditions Perrin. Merci, monsieur Kofer. Vous êtes historien, spécialiste de questions de sécurité et de renseignement. J'espère qu'on ne vous a pas empoisonné avec ce débat.
Non, c'était pas ça. Allez, pour l'instant, je suis
Merci beaucoup.
Merci, il est 12h58. Les auditeurs dans une seconde.
RTL Midi.